Bon, pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Bon, ce soir, quand vous vous en doutez, on va parler des élections, mais pas tout de suite. On va commencer par vous parler d'un Kanak qui est décédé dans une prison en France. Exactement, une prison, je sais pas, c'est Varennes, je sais pas quoi. C'est un truc paumé en Saône-et-Loire, Varennes-le-Grand. Saône-et-Loire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui n'est pas un politique au départ. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait fait des petits larcins en Kanaky, enfin au Nouvelle-Calédonie, puisque c'est toujours une colonie. Et là-bas, il a été foutu dans une prison qu'on appelle Camp Est, on y reviendra tout à l'heure. Il a été foutu dans une prison en fin 2023. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une révolte le 13 mai 2024. Est-ce qu'il a participé à la révolte ou pas? On n'en sait rien. Néanmoins, il y avait beaucoup de détenus à mettre dans cette prison Camp Est qui est déjà surpeuplée. Il a fallu donc faire en sorte que certains Kanaks soient évacués en France. Alors, quand vous dites ça, c'est terrible parce que il y a 17 000 kilomètres, n'est-ce pas, entre la Kanaky et la Nouvelle-Calédonie et la France métropolitaine. Et quand quelqu'un arrive de Kanaky, il n'a plus aucun rapport avec, même avec le téléphone, il n'a plus aucun rapport avec sa famille, avec les gens qu'il connaissait, etc. C'est encore pire que quand vous êtes en France et que vous êtes mis en prison, dans une prison en France. Hein. Là, 17 000 kilomètres, vous ne pouvez pas téléphoner d'ailleurs, puisque ça coûte énormément cher. Hein. Donc malheureusement, bah, il était isolé, et puis il a déprimé, et puis on ne sait pas trop. Le seul truc qu'on sait, c'est que pendant toute sa détention, qui a duré jusque février, puisqu'il est décédé le 6 février au matin 2006, donc entre 2024, juin 2024, où il est mis de force dans l'avion pour être mis en France métropolitaine, ce garçon n'a eu que comme rapport, comme visite, que son avocate qui l'a vu 4 fois. Alors, elle a fait ce qu'elle a pu, la pauvre avocate, puisque c'est déjà difficile pour elle, puisqu'il n'est pas tout seul. Il y a eu quand même, au niveau des Kanaks qui sont arrivés par avion de Kanaky, pour essayer de faire en sorte que, quand Est ne déborde pas trop, eh bien, il y en a eu 69, entre le 8 juin 2024 et le 22 avril 2025, il y a 69 détenus qui ont été envoyés, bien sûr, sans leur consentement, on ne leur demande pas leur avis, dans différentes prisons métropolitaines. Alors nous, on sait par exemple On a déjà parlé dans nos émissions qu'un certain nombre de militants et responsables des Kanaks ont été mis dans les prisons en France. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi le n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des gens qui n'étaient pas du tout des militants qui ont été transférés de force en France, comme Frédéric Groschin, il s'appelle Frédéric Groschin, a signalé que sa famille n'a pas du tout été mise au courant du fait qu'il a été évacué en France. Elle a été informée de son départ, finalement, forcé, que plusieurs jours plus tard, lorsque sa mère s'est rendue directement au camp Est, en compagnie d'autres parents de détenus, il y avait des rumeurs, et la direction de l'établissement leur a confirmé ce transfert. Voilà, c'est le mépris le plus total de l'être humain. Bon, c'est encore pire d'ailleurs quand on sait ce qui va se passer après. Alors, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé? Ben, il a déprimé évidemment, et il était tout seul. Il a vu l'avocat 4 fois en 13 ou 17 mois, je crois. Mmh. Il n'a pas réussi à téléphoner en Kanaky. Et de toute façon, s'il était libéré, puisque certains étaient libérables au bout d'un certain temps, il était coincé en France.
C'est ça.
Puisque de toute façon, il fallait de sa poche, ça qui est dégueulasse tout de même, hein, de sa poche, payer le voyage retour d'une situation qu'il n'avait pas connue. Il n'avait pas décidé de venir en France. Alors bien sûr, quand il est arrivé en France, il a demandé à être transféré, bien sûr, à Nouméa, mais au camp Est, mais finalement ça ne s'est pas fait, évidemment. Alors, que dire du camp Est? Le camp Est est une prison, l'une des pires de France. Je crois qu'il y en a deux. Une qui est en Guyane et l'autre qui est en Nouvelle-Calédonie. Comme par hasard, ce sont des colonies. Ce n'est pas un hasard. Et le camp Est, vous pouvez d'ailleurs prendre si vous avez le temps, vous pouvez prendre votre internet, regardez un petit peu qu'est-ce que c'est comme prison. Vous y verrez des cafards, vous y verrez des chats, des rats, vous y verrez n'importe quoi. C'est une horreur, cette prison. Et il y a de temps en temps des révoltes, évidemment. D'ailleurs, en 2024, quand il y a eu la révolte qui correspondait à la révolte dans Nouméa, des jeunes, etc., il y a eu un mort, hein, un jeune Kanak qui est décédé dans cette révolte. Alors, le camp Est s'est occupé à plus de 90% de Kanak. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas que les Kanak qui existent. Mais n'empêche qu'en prison, on retrouve 90% de Kanak. Alors, que s'est-il passé? Ben, il était isolé, le garçon, il était de plus en plus mal. Et finalement, il a été retrouvé mort le 6 février au matin, seul dans sa cellule du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, donc en Seine-et-Loire. Alors on s'est demandé, les gens qui sont solidaires des Kanaks se sont demandé pourquoi il était décédé. Il y a eu finalement une autopsie, et l'autopsie a découvert qu'il avait finalement une maladie qui s'appelle la tuberculose. On pensait que la tuberculose n'existait plus dans un pays comme la France. Au niveau sanitaire, on pensait que c'était... mais en prison, non. Le système sanitaire en prison, au niveau carcéral, c'est pas du tout ça. Donc, effectivement, il est mort. Alors, je crois que tu vas nous dire un peu quelles ont été les réactions des matons.
Alors, tu le précises fort bien. Normalement, la tuberculose, c'est une maladie qui est contrôlée, donc qui notamment a été éradiquée par les vaccins, mais c'est surtout une maladie en fait qu'on sait soigner. C'est une infection pulmonaire qui est souvent liée à une hygiène de dégrader, évidemment une incapacité à avoir une ventilation respiratoire et avoir un air vicié ou pollué, donc complètement des conditions carcérales qui sont parfaitement adaptées, mais on sait très très bien la soigner, on sait très très bien la détecter, et pour mourir de la tuberculose, il faut vraiment arriver au bout du bout d'un long processus d'infection pulmonaire, qui signifie qu'on a des toux, on crache du sang, on a des malaises, on vomit, enfin c'est très très éruptif comme maladie, avec des symptômes qui sont particulièrement impressionnants, puisque à l'époque on avait des grands ravages de tuberculose, on pratiquait des ablations de poumons ou des morceaux de poumons qui étaient infectés, quoi. Hein. Donc on est quand même sur ces choses-là. Et tu l'as dit, la première, alors au-delà de la dégueulasserie de la déportation
de Frédéric
en métropole. Il y a quand même une petite un petit biais qu'on peut dire. Alors tu l'as dit, hein, la prison du camp, c'est une prison qui est, enfin c'est une prison, c'est un espèce, c'est un mélange de bagne, de bidonville. Le seul point positif, c'est que une partie des détenus kanaks savent s'organiser un petit peu pour, on va dire, prendre en charge les gens qui seraient les plus dans la merde. Hein. C'est des prisons où il y a des dortoirs, hein, quand même, hein, pour vous dire un peu le niveau où on est. Alors, des dortoirs, c'est, on va
oui,
dire...
C'est pas terre, hein,
voilà,
hein,
c'est 18 mètres carrés, il y a 10 personnes, quoi, hein, avec des lits superposés qui montent juste au plafond. Mais bon, il y a une certaine prise en charge, effectivement, puis... Il y a la communauté qui est à Nouméa qui peut aussi un petit peu assurer, mais il faut toujours spécifier que il y a la Nouvelle-Calédonie, mais la Nouvelle-Calédonie c'est un archipel. Donc il y a l'île de Nouméa qui est la plus grande, là où il y a Nouméa avec les espaces les plus métropolisés, les plus urbanisés, mais il y a différentes îles, grandes terres, petites terres, etc. Mais l'atoll c'est que Nouméa. Donc déjà, hein, pour les gens qui sont sur d'autres espaces, pour la famille, pour communiquer. Donc il y a effectivement cette dégueulasserie de la déportation, mais il y a surtout une enfin c'est pas surtout, mais il y a quand même une question qui est primordiale. C'est qu'est-ce qui s'est passé à la prison de Varennes-la-Grande pour que les gens, les matons, laisse crever un mec dans 9 mètres carrés en voyant son état se dégrader, son absence de sortie de promenade, certainement, à un moment, puisqu'il n'y avait plus les moyens physiques de sortir. Quel niveau de déshumanisation il faut arriver pour dire bon, bah, pff, de toute façon, on n'y peut rien, c'est. Enfin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Et en plus, Frédéric est quelqu'un qui souffrait de... Enfin, je ne sais pas s'il souffrait de problèmes psychologiques, ce n'est pas le bon terme, pardon. En tous les cas, qui avait un suivi médical et psychologique et psychiatrique. Peut-être qu'il souffrait de rien du tout, mais que ça lui faisait du bien de parler à quelqu'un.
D'isolement, c'est ça.
Donc voilà, on va pas non plus faire des hypothèses. Et donc, il devait être normalement suivi. Il était suivi à Nouméa, au camp, avec, bon, dans des conditions, comme on peut l'imaginer, certainement pas super géniales. Mais ce suivi, il a été complètement suspendu lorsqu'il est arrivé en métropole. Ce lien avec le milieu médical qui aurait peut-être pu détecter cette maladie, cette tuberculose, il n'a pas été fait. Il y a un manquement. Alors donc voilà, on arrive aujourd'hui dans une société, dans une société où il y a un homme qui meurt étouffé dans son sang et dans ses déjections à 17 000 km de chez lui, tout seul, dans 9 mètres carrés, au bout d'une longue et lente agonie. Et vous avez donc des individus qui sont en charge de mettre ça en musique, hein, des membres de l'administration pénitentiaire. Et cerise sur le pudding, on a appris il y a quelques jours que un des lobbies, j'appelle pas ça des syndicats, même si c'en est officiellement, mais de l'administration pénitentiaire, en l'occurrence l'UFAP. Alors l'UFAP, ça doit être affilié à EFO. Je me tourne vers notre.
Oui, je crois,
ouais. Ouais, on doit être sur un truc comme ça. Ouais. Que je dise pas de bêtises. Alors ils sont, c'est des champions du monde, hein. EFO pénitentiaire, UFAP, hein. C'est, on est à un niveau à côté. Vous voyez les syndicats de flics, c'est des gauchistes, quoi. On est sur un truc, c'est incroyable. Et donc l'UFAP et son représentant en Saône-et-Loire a décidé de porter plainte contre l'État. Et contre l'ARS, donc l'agent régional de santé, pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors, on était extrêmement surpris, on s'est empressé d'aller regarder le contenu de cette plainte et voir ce que la presse locale disait. Dis donc, incroyable. Eh ben non, c'est pas ce que vous croyez. Enfin, je sais pas ce que vous croyez, mais c'est une mise en danger de la vie d'autrui des agents pénitentiaires qui se retrouvent au contact de gens malades, rendez-vous compte, qui sont pas pris en charge par l'ARS et qui en plus ont réussi à voyager en avion. Et ça, pour des fonctionnaires, c'est inadmissible, parce que non seulement ils sont étrangers, enfin ils sont pas étrangers, mais non seulement ils sont noirs, mais en plus ils sont malades, hein, et on a même pas de gants pour les manipuler. Voilà le degré de d'imbécilité dans lequel est l'UFAP. Alors, faut pas être stupide. Il y a effectivement certainement une part de conneries, hein, qui doit être certainement la plus importante. Mais il y a évidemment dans cet espace qu'est la co-gestion de l'administration pénitentiaire par les syndicats aussi l'idée de tirer un maximum de profit de toutes les situations. C'est-à-dire que là, apparemment, bon, l'administration pénitentiaire, elle a fait de la merde. Bon, elle en fait toujours de la merde, mais là, elle s'est fait gauler. Donc elle va forcément être obligée à un moment ou à un autre de passer à la caisse, et l'UFAP évidemment va tirer son épingle du jeu, soit en touchant un chèque pour constitution de partie civile, soit en gagnant cette fois-ci un petit peu en mettant quelques trucs dans sa besace, on va dire dans l'éventualité d'une prochaine négociation qui leur permettra de dire bon ben voilà, tu m'en donnes deux, je t'en donne un, etc. Jamais sous-estimer la racaillerie de ces gens-là. Évidemment, à l'intérieur du communiqué de l'UFAP, vous n'aurez absolument aucun mot pour Frédéric Ronchin, puisque son nom n'est même pas cité. Alors, je crois que là, on a vraiment, tu l'as dit, le...
Ah bah, c'est une victime directe du colonialisme, ouais. Du système judiciaire et carcéral colonial.
Ouais, enfin, même en plus, on va dire que toutes les cases sont cochées, la surpopulation carcérale, la merditude de l'administration pénitentiaire, le traitement colonial des populations, la gestion des révoltes, etc., etc., etc. Donc là, vraiment, on a une affaire qui est particulièrement illustratrice et qui devrait normalement faire les titres de tous les journaux si on était dans un pays où effectivement soi-disant le pays des droits de l'homme. Il est d'ailleurs pas à noter que c'est aussi une démonstration du niveau du débat public, puisqu'on se rappelle ici que il y a quelques décennies, ce genre d'affaires était pris en charge normalement par des intellectuels, par des défenseurs type droits de l'homme, etc., etc. Et aujourd'hui, on a tellement reculé dans la défense du minimum vital, du minimum légal.
Alors, il y a bien un collectif solidarité Kanaky, mais les pauvres, ils sont pas nombreux déjà, puis ils arrivent pas à gérer tout. Actuellement, il y a 4 dans les tôles françaises, 90 Kanaky qui ont été là de force. Et généralement, c'est pas, ils en mettent pas un par tôle, hein. Ils en mettent pas plusieurs par tôle, ils sont pas regroupés, hein.
Alors, sur la déportation, là, que tu as évoqué à Camp, hein, il y avait deux éléments. Alors, il y avait d'une part, évidemment, de faire un peu de place, pour, on est à 174% de taux d'occupation sur Camp. Donc il y avait évidemment faire un peu de place pour permettre de faire entrer ceux qui allaient être arrêtés pendant les émeutes, les révoltes. Et il y avait aussi une manière de sanctionner les politiques, mais aussi d'envoyer un message à l'ensemble de la population autochtone kanak, indigène, pour leur dire attention, hein, si vous déconnez, c'est... en métropole que ça se passe, et donc voilà, c'était vraiment double emploi, double usage, un message politique de passé et en même temps une de répression. Alors on va aller voir si on peut s'intéresser un peu d'un peu près à cette affaire qui est à la fois terrible quand on fait le bilan de tout ça et qu'on regarde dans le détail, c'est vrai, mais qui mérite vraiment qu'il y ait des gens qui payent pour ça. Pas possible que les acteurs de ce drame s'en sortent n'importe comment, quoi. L'avocate est maître Julie Janot. On va voir s'il y a des gens qui la connaissent et qui savent où elle est, parce que on va voir. Vous n'hésitez pas à nous communiquer. Non, mais on va la trouver. Mais voilà, si c'est pas nous écoute, mais on va suivre ce truc parce que on a été particulièrement alerté par ça. Évidemment, on se doute bien que des affaires comme ça, il y en a toutes les semaines. Hein. Il y a en ce moment. Environ quelqu'un qui meurt dans les prisons par suicide tous les 6 jours, plus d'autres qui meurent de maladies, de vieillesse ou de saloperies comme ça. Mais bon, on va suivre le bousin, quoi. Qu'est-ce que tu voulais dire en conclusion ?
Simplement de dire qu'en France, et puis aussi si on prend toutes les prisons, qu'elle soit en France métropolitaine et dans nos colonies, ça représente actuellement plus de 86 000 personnes.
Oh.
C'est le record absolu jamais atteint. Et on attend à ce que ça soit pire. Hein, puisque au niveau du pouvoir, au niveau de l'État français, de ceux qui sont au pouvoir actuellement, au niveau du sinistre qui gère les prisons, je crois que c'est Darmanin,
Oui, c'est ça. Oui.
Ils refusent absolument qu'on libère les gens, même s'ils vont être libérés dans quelques mois. Non, non. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Bon, alors, bien sûr, il y a le cas de Sarkozy, il y a aussi d'autres cas du même style, où là, la prison n'est pas la même, c'est moins qu'on puisse dire.
Mais d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse le bilan, parce que la structure des lois pénitentiaires et judiciaires qui aujourd'hui conduisent à cette population carcérale de 86 000 personnes, et on estime qu'il y a environ 280 à 300 000 personnes qui sont sous main de justice, c'est-à-dire des bracelets, des contrôles judiciaires, des obligations, etc., etc. Elle trouve quand même son origine à l'intérieur de la politique judiciaire de la gauche sous Hollande, avec l'empilement et l'entassement des lois type dites Perben d'une part, et puis Taubira aussi, qui ont vraiment créé des cadres, des canaux qui ont obligé. Par exemple, auparavant, lorsqu'on avait une peine de prison inférieure ou égale à 18 ou 24 mois, il était peu envisageable de la faire voire d'avoir des suivis très 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 importants, quoi, on va dire, que de fait le sursis était obligatoire. Or aujourd'hui, avec notamment les lois Taubira, toute peine supérieure à 6 mois est accompagné d'un suivi psychosociaux, judiciaire, etc., etc. Et donc, on a tout un tas de petites délinquances qui se retrouvent dans les filets de la justice, alors qu'auparavant, on avait éventuellement une peine avec sursis et repartait. Sauf que le suivi judiciaire, faut le suivre, sinon la peine de prison s'applique. Et en l'occurrence, quand on a des gens qui sont désocialisés, quand ils n'ont pas les moyens, quand ils se retrouvent dans une absence d'autonomie ou dans une précarité, souvent tu rates un ou deux rendez-vous et là pim pam poum et c'est tu te retrouves à effectuer ta peine de prison, quoi. Donc voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur cette affaire et sur cette horrible, ne serait-ce que pour avoir des informations sur la famille Groschin, qui finalement, je crois qu'elle a été prévenue du décès de son enfant.
La famille s'est mobilisée en 2024 surtout, puisque son grand frère, est venu en France pour essayer de le voir. Et c'est lui qui va apprendre par l'administration pénitentiaire que son frère est décédé il y a peu de temps, donc ça s'est passé le 6 février. Il voulait avoir un droit de visite pour voir son frère. C'est assez long pour l'obtenir. Il était dans les démarches et quand il a téléphoné à la prison, c'est là qu'on lui a appris que son frère était décédé.
D'accord, c'est-à-dire que c'est eux qui ont créé le contact, c'est pas l'administration pénitentiaire qui a pris son téléphone et qui a dit « oulala, attention ».
Non, mais c'est le téléphone entre la France et la Nouvelle-Calédonie.
Waouh. Ouais, voilà, c'est quoi que vaut la vie d'un canac en métropole, quoi.
Ouais,
c'est vraiment ça. Ok.
On va faire une pause, non, musicale.
Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns jammed downtown. The killing clowns, the blood money men. Shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Everdad, those Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. What he thinks of voting communist. Ask the Dalai Lama in the hills of Tibet. How many monks did the Chinese get in a war-torn swamp? Stop any mercenary and check the British bullets in his armory.
Alors nous voilà, donc sauf si vous étiez dans une cave au cours du dernier week-end, vous avez certainement remarqué qu'il y avait des élections municipales, en l'occurrence un second tour. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui, normalement, sauf contestation, des résultats qui sont à peu près visibles. Alors, on va pas forcément s'atteler à faire un commentaire complètement précis et tout ça. On va juste vous donner des éléments pour prendre de la hauteur et essayer de comprendre ce qui se passe. En effet, on est noyé sous des commentaires politiciens, sur des angles et des cadrages médiatiques qui sont bien évidemment au service d'un discours et d'une narration tributaire de l'idéologie dominante, donc bourgeoise. Et lorsqu'on regarde des résultats électoraux, il faut s'attacher à saisir et à comprendre des choses qui soient des ensembles tangibles, réels, matériels, qui permettent justement d'émettre des hypothèses et de voir si on les vérifie ou pas. Alors, c'est pas les pourcentages qui nous intéressent, oui, ou le nombre de victoires, etc., qui puisse y avoir. Ce qu'il faut essayer de comprendre, donc d'en regarder, alors... Tout n'est pas publié parce que c'est encore très frais, hein, on est lundi, c'est d'abord le nombre de voix. Par rapport d'une part au nombre de votants, ça c'est évident, ça fait un pourcentage, mais ça veut rien dire, par exemple s'il y a 5 votants et que vous faites 3 votants, c'est nul. Par contre, s'il y a 50 000 votants et que vous faites 35 000 votants, voix sur ces 50 000 votants, c'est effectivement un peu plus intéressant. Et ces volumes... qui sont interrogeables. On peut regarder ce qui se passe par rapport à des précédentes élections ou sur le plus long terme, ce qui se passe. Donc, quand on prend ce nombre de voix en termes de volume, alors passons sur le fait que évidemment on a un taux d'abstention qui est énorme, hein, qui est le plus gros de la Ve République pour des élections municipales. Rendez-vous compte. Dans les années 70 et 80, allez, jusqu'en 84, 86, on votait à plus de 75% pour, oui, les élections municipales. 75%. Voire même 80% pour les années 70. Donc, vraiment, c'était, on va dire, une élection...
On a atteint 57%.
Quoi. C'est ça. Et encore, c'est du vote.
Ouais.
Il faut voir qu'est-ce qu'il y a comme exprimé. Ouais. Parce que si t'as 57% et t'as, allez, 3-4% de nul ou blanc, ça te redescend encore d'un cran et c'est pas l'expression. Alors, il y a plusieurs hypothèses, hein, là-dessus. Il, hein, n'y a pas forcément qu'une désinfection de l'opposition, même si c'est évidemment la principale. Il y a eu aussi la transformation des modes de scrutin, puisque, comme vous le savez, dans les trois plus grandes villes, on votait à la fois au suffrage universel direct pour les maires d'arrondissement, mais aussi pour le maire central, ce qui faisait qu'il y avait deux trajets à faire. Tu allais voter une première fois, puis tu repassais en prenant d'autres bulletins, c'est-à-dire que désormais, pour pouvoir être citoyen, il va falloir passer le bac ou un diplôme. Et il y a d'ailleurs à noter que, alors qu'on nous saoule toute l'année en long, en large et au travers sur les devoirs du citoyen, je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai pas la téloche, mais je sais pas s'il y a eu des campagnes à la fois d'explication, de sensibilisation, etc., etc., alors que c'est vraiment normalement le summum de l'expression de la citoyenneté, le vote. C'est-à-dire que entre les deux, à part les pétoches et les manifs, bon, désormais les pétoches ça sert à rien puisqu'on repasse les projets de loi, et puis les manifs, tu le fais taper sur la gueule. Donc on va dire, à la limite, il ne reste que le vote pour celui qui veut vraiment être sage et bien citoyen. Et ben, pensez-vous, avez-vous vu des explications, des droits? Quand même assez incroyable de voir qu'on a un État, un gouvernement qui reproche à ses, aux membres de sa, de son, de sa société de ne pas faire ce à quoi lui il devrait les pousser. Bon, alors évidemment, faut pas non plus être stupide. Dans une société de classe, sont intéressés aux choses politiques d'abord les dominants et les bourgeois qui eux ont à la fois le temps pour lire Le Figaro, même si bon, pas forcément la lecture la plus intéressante, mais qui sont parfaitement au fait et au biais des comment dire des affaires du monde, et pour eux c'est important que ça tourne et que ça continue. Pour ça que quand on parle d'abstention différenciée. L'abstention n'est pas un chiffre comme ça qui tombe. C'est pas la même chose chez les jeunes, c'est pas la même chose chez les ouvriers, c'est pas la même chose chez les chômeurs, etc., etc. Et ce qu'on remarque, c'est que plus on a de thunes, plus on a de capital, plus on a de propriété, bah plus on va voter.
Et plus on est vieux aussi.
Plus on est vieux aussi. Étonnant,
ouais.
Non
hein, ouais.
C'est vraiment de là à dire que nous serions dirigés par des vieux bourges. C'est un pas que nous allons franchir.
Alors, voilà, tout à fait. Ce qui est marrant, j'étais pas dans la télévision, mais paraît-il, d'après le journal que je lis, c'est-à-dire Mediapart, ils disent que finalement, à l'issue du second tour, eh bien, tous les gens qui représentaient les partis politiques étaient contents. Ils étaient tous contents. Le PC était content parce qu'il a récupéré... il n'est pas mort, déjà. Il a récupéré Nîmes. D'accord. Bon, il a perdu des choses, mais le PS était d'accord, était content, LFI était content, la droite aussi, même des gens comme les macronistes qui n'existent pas au niveau, au niveau de, des villes, etc. C'est lamentable. Bon, ils ont effectivement peut-être 200 maires, peut-être dans toutes les campagnes, etc. Eh bien, il était content aussi, le camarade, je ne sais plus comment son nom.
Attal, Attal
il était
non, mais c'est complètement des éléments de langage. Comme je te dis, il faut avoir des éléments qui nous permettent de mesurer. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre que les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux, selon ce que tu as dit. Alors, on nous parle de progression et d'enracinement du RN, etc. Bah, non, en fait, si on regarde par rapport aux élections de 2014 et de 2020, mettons entre parenthèses celle de 2020, étant donné les circonstances extrêmement particulières
à
cause du Covid, hein, on avait 40% de participants, on a un volume de voix qui est en baisse par rapport aux élections de 2014. Si on prend l'ensemble des suffrages exprimés pour le Rassemblement National. Donc il n'y a pas
de progression.
Il y a éventuellement une stagnation, voire une régression. Alors, évidemment, ceux qui progressent, ce sont la France insoumise. Alors, moi, j'ai pris comme élément les élections de 2014. À l'époque, c'était le parti de gauche et le front de gauche. Donc, il y avait à la fois le parti de gauche et le PCF, hein. Il y avait là encore aussi quelques municipalités extrêmement importantes, et là on est sur un nombre de multiplication fois 10. Alors, je veux bien aussi regarder le fait qu'il y avait peut-être aussi un volume de présentation de liste qui n'était pas pareil. Mais si on regarde les présentations de liste, on a pour le Front National, le Rassemblement National, 350 listes qui ont été présentées nominalement au Rassemblement National, et pour la France Insoumise, 300. Et donc avec moins de listes, la France Insoumise fait plus de voix qu'auparavant. Donc là-dessus, c'est clair. Non, ce qui est aussi clair, c'est l'effondrement du bloc macroniste, dit central, enfin je sais pas comment on peut les appeler, on va dire macroniste, hein, où là c'est vraiment une bérédina totale, avec évidemment quelques points qui font sortir du lot, en l'occurrence... celui qui a le plus attiré l'attention, c'est Bordeaux, avec la victoire de Thomas Cazenave, ancien directeur du budget. Oui, c'est ça, secrétaire d'État au Trésor et au budget, peut-être même ministre de l'économie. Non, secrétaire d'État au budget, donc s'il gère le budget comme il gère la mairie, ça va être très rapide à Bordeaux. Hein, et ouais, quelques qui bat un maire écolo. Ce qui aussi faudrait regarder pour pouvoir mesurer, c'est les résultats qui ont eu lieu lorsqu'il y a eu fusion de listes avec le PS et avec le la France Insoumise, ou quelles données cela a été rendu, qu'est-ce que ça a donné. Alors, la chose qui peut être vue, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont été élus, et plutôt très bien élus, avec une mobilisation assez importante et avec des scores assez importants. Alors ça, c'est dans les villes très populaires, très métropoles. Alors c'est la Courneuve, par exemple, c'est Sarcelles, où on a un personnel politique qui est renouvelé. Un personnel politique un peu plus jeune, racisé, parfois issu de listes dites associatives, donc des militants de terrain qui étaient soutenus, mais pas que, par la France Insoumise. L'exemple le plus important, c'est évidemment Saint-Denis, une ville de 150 000 habitants, qui a porté au premier tour un candidat, un maire, et alors qui a une longue histoire de militance sur Saint-Denis, mais c'est quand même extrêmement important. Et c'est sympa de regarder ça, parce que sur le personnel politique, on voit que il y a aussi tout un tas de conneries qui méritent d'être nées. En effet, les listes étaient conduites beaucoup, voire même de manière assez importante, par des députés. Et on va donc avoir un certain petit renouvellement assez silencieux, assez discret, de l'Assemblée nationale, puisque aujourd'hui, en relation avec le cumul des mandats, on ne peut plus être maire et député, alors qu'avant, non seulement on pouvait enfiler les cumuls, mais on va dire que le statut de député-maire, c'était vraiment le truc de base. Voilà, c'était comme ça qu'on pouvait se faire des carrières politiques d'enfer. Et parmi les députés élus, c'est marrant de voir que la droite, donc les LR, à la fois les divers droites et les LR, représentent 25% des députés qui ont été élus comme maire, et que juste derrière, il y a le Rassemblement National qui représente 20%. Donc je crois que c'est 12 députés qui ont été élus pour le RN, et 19 pour les LR. Ce qui veut bien dire qu'il y a un petit problème au niveau du personnel là, politique. Quand on vous parle d'enracinement, de professionnalisation, etc., du RN notamment, on voit que quand même il y a un petit problème au niveau des troupes, parce qu'il faut à la fois des compétences, hein, pour être maire, on peut pas mettre n'importe qui, hein, voilà, ou alors vraiment quand on a aucune chance, mais il faut aussi avoir un minimum de capacité intellectuelle et aussi avoir un petit peu de compétences. Ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne, déposer une liste et avoir un minimum de trucs, quoi. Et donc on voit que au Front National, ben il y a pas des masses de personnel. Donc c'est aussi quelque chose qui est plutôt intéressant. Alors bon. Après, nous, si on revient sur notre région, hein, sur notre ville, pour les Rémois qui nous écoutent, donc vous devez certainement avoir les résultats qui sont passés. Alors, on a quand même regardé quelques chiffres, hein, parce que c'est quand même. Enfin bon, donc il y avait les deux élections. Ce dimanche, il y avait les élections au conseil municipal et les élections au conseil communautaire. Donc, le conseil communautaire, c'est Grand Reims, c'est la communauté de communes, hein, c'est la métropole, c'est elle qui décide pour les déchets, pour les transports, pour les TER, etc., etc. Et c'est elle aussi qui a des compétences, notamment pour les politiques sociales. et pour les écoles. Et donc, il y avait 59 sièges à pourvoir pour le conseil municipal. C'est pas mal, hein, quand même. Hein, et 59 pour le conseil communautaire. Il y a largement moyen de gratter une petite place. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être élu à la fois au conseil communautaire et au conseil municipal. Ça permet à la fois de cumuler les bagnoles de fonction, les avantages, les chèques déjeuner et les salaires. Alors, je dis les salaires, mais il faudrait vérifier. Il doit y avoir quand même, je pense, quelques réglementations sur les indemnités. Mais ça permet surtout, et on vous l'a dit la semaine dernière, de multiplier le droit de vote pour les grands électeurs et pour les sénatoriales.
Les sénatoriales.
Qui vont avoir lieu à la fin de l'année et qui vont certainement donner lieu à l'apparition de groupes
au Sénat
pour le Rassemblement National et pour la France Insoumise. Ce qui est des enjeux extrêmement importants parce que pour modifier la Constitution, par exemple, il faut absolument avoir la possibilité de créer des majorités au Sénat. Et puis le Sénat, c'est aussi des pouvoirs immenses, individuels et collectifs, parce qu'il y a pas mal, énormément de pognon. Et c'est ce qui permet pour les collectivités territoriales d'avoir des retours d'investissement de thunes. Alors, figurez-vous que sur Reims... on va le répéter, on est sur 240 000 habitants aujourd'hui, recensés. Donc il faudrait voir s'il y a déjà 240 000 habitants et déjà à peine 102 000 inscrits. Donc il y a quand même quelque chose qui est interrogeable là-dedans. Qui sont les pas inscrits. Comment se fait-ce que plus de la moitié des habitants ne sont pas inscrits? Alors, il y a des jeunes, il faut avoir 18 ans, on est d'accord. Mais il n'y a pas 140 000 enfants à Reims, il n'y a pas 140 000 jeunes de moins de 18 ans. Donc il y a quand même là déjà, première question à regarder, voir comment ça se passe. Et sur ces 102 775, très exactement, il y a à peine 57 000 personnes qui se sont déplacées, donc 56 465, ça représente... Pardon, 46 000 personnes, c'était l'inverse, il y a 56 000 personnes qui ne se sont pas déplacées. Donc on a un pourcentage d'inscrits de 45%. C'est vraiment lamentable. Et sur les votes, il y a déjà 2% de votes qui sont des votes blancs ou nuls. Donc on a 98% d'exprimés, ça, tu vois, réduit encore un peu plus l'assiette. Et donc j'en viens à ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, pour être maire de Reims, aujourd'hui, il suffit d'avoir 23 561 voix. Donc 22% même pas 23% des inscrits.
Ah bah tu sais qu'il y a pire.
Ça te représente 51% 86 des exprimés. Et ça mon petit Denis, ça fait 46 sièges au conseil municipal. Voilà, avec 23 000 personnes qui mettent un bout de papier dans l'urne, tu vas pouvoir faire le malin et nous casser les pieds pendant 7 ans en disant des conneries. 6 ans en disant des conneries qu'il faut virer les gens des logements sociaux, etc. Machin, bidule. Enfin voilà, tu vas pouvoir nous saouler pendant 6 ans avec tes salades de droite. Et de l'autre côté, bon bah c'est un peu la nouvelle quand même de cette année. Donc on a la candidate du LRN qui a 11 000 voix, c'est que dalle, hein. C'est même pas, c'est 10% des inscrits. Donc tu vois, quand on dit que les gens sont racistes, qu'il y a machin et trucs, c'est vraiment que dalle, quoi. 10% des inscrits, bon bah dans sa famille on doit avoir bien 10% de connards si c'est pas plus, quoi. Donc voilà, il y a ça, et ça fait 7 sièges communautaires et 7 sièges au conseil municipal. À noter la magnifique fusion de la liste d'hiver droite avec la liste RN, qui va permettre donc à Stéphane Lang, ex-adjoint, de pouvoir rempiler pour 6 ans et de pas retourner au chagrin, à la différence de ceux qui ont voté pour lui ou qui n'avaient pas voté pour lui ce lundi.
Oui, simplement pour dire que dans la journée, il y a eu un retournement de situation, puisque la chef du RN a viré de son groupe l'élu historique RN sur Reims pour des suite à un article qui est paru dans Libération ce week-end.
D'accord. Ah, je l'ignorais, j'avais pas
oui,
regardé.
Oui, c'est fameux Philippot.
Philippot, Jean-Claude Philippot, qui a été exclu. D'accord. Alors il est toujours officiellement sur la liste. Il est considéré comme étant membre du groupe RN en quatrième position et membre du groupe RN au conseil municipal et au conseil communautaire à 18h selon le ministère de l'Intérieur. Donc il faudra vérifier si ça c'est pas encore inscrit sur les trucs, mais attention entre les déclarations et alors qu'est-ce qu'il a fait ce brave Philippot? Il a écrit il a fait quoi, des tweets, des machins? Il s'est un peu lâché en famille, tu sais pas?
Bah, je ne sais pas trop, j'ai découvert ça tout à l'heure avant de venir à l'émission, j'en sais pas plus, mais bon.
D'accord. Alors oui, on voit que la liste était particulièrement bien composée, puisque on se rappelle que le numéro 2 de la liste, qui devait être en charge de la sécurité et de la tranquillité publique sur la liste du RN, avait été lui-même condamné pour violence. Donc il était particulièrement au fait de la délinquance et de la violence. Donc voilà. Enfin bon, c'est les listes de guignol du Rassemblement National. Hein. On n'est pas surpris hein, quand on voit les trucs. Alors c'est pour ça évidemment que cette brave Madame Frigou a dû accueillir avec gourmandise quelqu'un comme Stéphane Lang qui, s'il est un imbécile, est un imbécile qui sait faire de la politique et sait faire marcher la turbine. Et effectivement, quand on voit la liste de Madame Frigou, c'est un festival. Hein, donc, il y a Madame Turpin Mihalovic qui est naturopathe, hein, qui voulait s'occuper du commerce, etc., etc. Enfin, c'est bon, j'ai rien contre les naturopathes, hein, mais que les naturopathes s'occupent de naturopathie, pas forcément de commerce, parce que ça arrive d'être un peu compliqué. Et donc ça fait 11 000 voix. Et puis, ben évidemment. Hein, en troisième position, hein, on a notre mascotte locale, notre Eric Quénard infatigable, qui a 10 000 voix. Et 10 000 voix, et ben, ça fait 9,82% des inscrits. Ça fait 22% des exprimés. C'est pas mal hein, quand même hein, quand tu vois le rapport. Et ça fait 6 sièges au conseil municipal et ça fait 6 sièges au conseil communautaire. À noter que les reports de voix ont été quasiment inexistants puisque la gauche et l'extrême gauche faisaient 18+6 plus 1, plus 0,8, ça faisait un total de 26. On arrive à 22. Il y a eu un petit problème. Il y a de la perte. Et puis, en ce qui concerne le divers droite, on était à 19. Et 19 plus 7. Aujourd'hui un total de 25, donc ça fait 26. Là par contre, le report de voix a particulièrement fonctionné. Ce qui semble apparaître aujourd'hui sur les dynamiques de vote, c'est que d'une part, les listes d'union ou de fusion entre la LFI et le Parti Socialiste n'ont pas fonctionné comme ça aurait pu traditionnellement le faire ou de manière arithmétique. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a une partie des gens qui votent LFI qui ne veut plus avoir affaire au PS. Donc si ce socle, il existe et qu'il est important, il y a une détestation du Parti Socialiste qui fait que non, c'est pas possible. Et de l'autre côté, à force d'avoir tapé, diabolisé, engueulé, injurié la France Insoumise, comme ça a été assez impressionnant au cours de ces derniers mois, qu'on soit d'accord avec la France insoumise ou pas, ici c'est pas le cas, on a évidemment plein de choses à dire, mais on ne peut pas ne pas constater que l'entreprise de, diabolisation et de mise hors jeu a été véritablement extrêmement importante, à tel point qu'on a parlé de cordon sanitaire nécessaire. Donc forcément...
Ça va continuer, hein, ouais, puisqu'il y a les présidentielles.
Tout à fait.
Il faut absolument éliminer Mélenchon.
Tout à fait.
Il faut, le PS va tout faire pour l'éliminer.
Tout à fait. L'objectif étant, pour le PS, de reconstituer un centre dont il serait la direction, avec pourquoi pas un candidat de type Hollande qui décrocherait.
Oh, je crois qu'il est mort, lui. Hein.
Oh non, méfie-toi, hein, c'est un renard. Hein. On n'a pas 30 ans de PS en sachant pas tirer sur les ficelles. Attention à cet animal qui apparaît comme étant mou, rigolo, affable, voire bête. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Flamby. Ça reste une des plus grosses raclures que la politique française ait produite. Et il faut toujours le rappeler, le Parti Socialiste est un organe, un ensemble dans lequel s'élaborent des tactiques et des stratégies politiques extrêmement machiavélique, à la fois historiquement, mais à la fois organiquement, puisque c'est une saloperie de tendance, de contre-tendance, de congrès, tout ça. Donc attention, c'est des gens qui ont, en termes de ficelle et de capacité à se projeter, beaucoup de talent. Donc voilà, ce qu'on peut dire aussi, et ça sera en termes de commentaires, c'est que on a eu l'occasion de voir... on va le dire, hein, des élus noirs et arabes qui sont arrivés un petit peu plus en masse que d'habitude et qui ont été, mais alors, confrontés à un niveau de racisme incroyable.
Le pire, je crois que c'est Saint-Denis. Hein, Black à Saint-Denis qui a été élu, là, ils sont massacrés. Ça.
Tout à fait. Incroyable. Mais avec une aisance de la part de la classe médiatique. Comme on en a rarement vu. Alors ça va de une citation tronquée de la Cité des Noirs et des Rois et des Peuples Vivants, qui est en fait quelque chose qui a directement été créé par l'extrême droite, mais qui est par la fachosphère, mais qui a été repris par la journaliste, qui ne voit même pas en quoi elle témoigne de son racisme quand elle dit ça, jusqu'à un autre, mais qui est un journaliste d'extrême droite, qui s'est permis de demander de qui dans quelle main le maire était, quand même assez hallucinant, quoi. Et on en passe d'autres, etc., etc., quoi. Mais bon, voilà, on espère peut-être pouvoir vous en dire un peu plus si on remarque d'autres choses. Toi, tu avais quelques chiffres à nous donner, ouais, pour conclure.
Ah, j'avais un truc, c'était ce qui s'est passé au niveau des résultats dans une ville comme Mulhouse,
ouais,
qui a été emportée par un centriste. Et il a gagné avec 5556 votes. Cela représente 24% des votes exprimés et 10% seulement des inscrits. On peut être maire de Mulhouse et avoir eu 10% des inscrits. C'est génial, quoi.
Non, c'est affreux.
Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Rigors chaque semaine sur les Coligariens.
Radio Prévenitive.
Légal depuis 1981.